Bon, bonjour, déjà, donc oui, j'ai un parcours de danseur d'abord, de danseur classique, donc pour une première partie de ma carrière, et puis puis j'ai travaillé avec Mehdi Marin, ce qui m'a fait une bifurcation un peu vers la danse contemporaine, qui d'abord après cette carrière d'interprète, j'étais amené à aborder l'écriture chorégraphique, c'est là où j'ai commencé à revenir sur Tours, j'ai fondé la compagnie Marouchka. Et j'ai créé une quinzaine de pièces où moi-même sur mon travail déjà de recherche, parce que j'avais une double formation de musicien et de danseur, j'ai commencé à travailler beaucoup sur les rapports entre le corps et le son, notamment entre la danse et la musique. Et c'est assez naturellement finalement avec d'abord une grande complicité avec le Petit Faucheux qu'on produit la plupart de mes productions en moi, de mes spectacles en tant qu'auteur, et on est arrivé à un moment donné, je suis arrivé à effectivement proposer une première édition de programmation, d'abord que sur des rapports entre la danse et la musique, et puis au fil des années, puisque cette année on est sur la 8e édition du festival déjà, où on est arrivé à travailler vraiment sur des propositions qui se trouvent, on va dire, dans l'entre-deux, dans toujours avec ce fond de rapport entre le corps et le son, mais qui sont des propositions qu'on un peu non définissables, qui vont se retrouver toujours entre la danse, entre le théâtre, entre l'art plastique, entre le concert à écouter. Donc voilà, un petit peu, en bref, si je peux raconter ma vie.
Et d'ailleurs, vous l'évoquez, notamment dans le fascicule Écoute voir, vous dites « nous conforte dans nos choix ». Alors, les éditions précédentes, pour être précis, « nous conforte dans nos choix d'artistes difficilement classables ». Alors, on parlera évidemment un peu plus tard là, de la programmation, mais est-ce que vous pouvez commenter un peu ces termes « difficilement classables » ? Est-ce que c'est aussi votre objectif de proposer un peu des spectacles, je dirais, atypiques ?
Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'objectif du festival, ça s'est affiné petit à petit. C'est aussi comment il a trouvé sa place sur la ville de Tours par rapport aux autres propositions des autres lieux qui sont, on va dire, plus spécifiques, où on va voir du théâtre à l'Olympia, on va voir de la danse au CCNT, de l'opéra à l'opéra, où ça m'intéressait de travailler sur des gens, effectivement, qui sont parfois, n'utilisent pas leur médium de base. Je pense notamment à une artiste que j'ai programmée au festival cette année qui s'appelle Miette Barlop, qui est plasticienne à la base, mais qui finalement se retrouve à mettre en scène un concert où finalement on ne sait plus très bien. Et je trouve que dans les formes actuelles, en tout cas dans les formes de ces dernières années, on trouve de plus en plus d'artistes comme ça qu'on ne peut plus appeler des artistes pluridisciplinaires, mais qui sont justement des inclassables et qui du coup produisent des objets qui sont un peu des objets qu'on ne sait pas dans quelle case mettre. Voilà.
Oui, voilà, un peu des ovnis de la culture, en tout cas du spectacle. Je ne sais pas si on peut, on peut dire ça comme ça.
Finalement, ça finit par devenir un genre à part entière. c'est ça qui devient intéressant.
Effectivement, on pourrait presque les rebaptiser OSNI, objets scéniques non identifiés presque.
Voilà, c'est ça.
Vous avez parlé tout à l'heure de cette 8e édition, donc qui aura lieu du 18 au 20 janvier 2018, on le rappelle pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce festival ? Parce que 8e, voilà, ça commence à faire, hein, ça a commencé du coup en 2010, si je me trompe pas dans mes calculs.
Oui, tout à fait, ouais. C'est un festival qui a trouvé petit à petit sa place. En fait, on est parti au départ avec une programmation sur 2 jours, avec un tout petit budget, où déjà, de toute façon, la thématique entre le corps et le son était déjà très clairement posée. Au début, on va dire que les premières années, c'est beaucoup de gens de mon propre public, on va dire, qui a commencé à suivre tout le festival, qui voyait toutes les propositions, puis petit à petit, le public a grossi. Et puis ce qui est intéressant maintenant avec le festival, c'est qu'on arrive à toucher, on va dire, justement, du public de différentes disciplines, c'est-à-dire des publics d'art plastique, des publics de concert, des publics de théâtre, ou des publics de la danse, en fait. C'est ce qui est intéressant. Et aussi sur le festival, souvent les gens me disent, on me renvoie ça en tout cas du public, en fait ils viennent au festival pour être surpris, en fait, pour voir des choses qu'ils diront on peut pas voir normalement.
Ils le sont généralement en sortant après des spectacles.
Oui, ils le sont un peu, souvent surpris, souvent un peu décoiffés, mais je pense qu'ils viennent chercher ça. en plus, on peut nous le sentir avant, où on avait pas mal de public qui venait voir un artiste spécifique parce qu'il avait entendu parler ou qu'il était attiré par lui ou choses comme ça. Et maintenant, on a des gens qui prennent un pass pour la journée sans trop savoir ce qu'ils vont voir, en fait. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire. Quand les gens finissent par faire confiance, du coup, à la programmation.
Oui, voilà. Après, c'est vrai que ça reste quand même un peu acquis tout double aussi pour celui qui vient voir, quoi, pour le spectateur aussi, parce que c'est vrai qu'il sait pas à quoi il va s'attendre avec ce genre de spectacle.
Oui, c'est ça. Mais en fait, il recherche ça. C'est aussi ça devient quelque chose d'excitant, on va dire, de se lancer dans l'aventure aussi. Voilà, de pas savoir où on va aller voyager, on va dire.
Alors justement, parlons de cette programmation pour cette 8e édition du festival Écoute Voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors c'est sur 3 jours hein, déjà, avec plusieurs spectacles différents, de la musique, de la danse, un peu, enfin plein de choses différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du spectacle et de l'événement phare, ou en tout cas qui vous a tenu à cœur de présenter cette année ?
Ben, c'est difficile, toujours, c'est la question toujours qu'on me pose, mais c'est difficile pour un programmateur.
En fait,
on pense une programmation souvent. Moi, je pense souvent à la programmation comme si les gens allaient tout voir. Pour moi, ça a un sens de tout voir parce qu'un spectacle va renvoyer à l'autre ou va être dans l'opposé. Mais donc, j'ai envie de dire, venez voir tout. C'est difficile pour moi de choisir un spectacle plus qu'un autre, mais après je peux parler un petit peu des différents artistes qui sont invités, parce qu'en plus ça c'est quelque chose je tiens beaucoup, c'est d'inviter des artistes avant d'inviter des produits, on va dire, voilà. Donc il y a Miel Zarlop par exemple, il y a des artistes qu'on a jamais vus à Tours et qu'on a peu vus en France qui vont venir cette année, parce que notamment j'ai 2 artistes flamandes où je trouve que la scène flamande actuellement est extrêmement vivante et pertinente. Donc on a j'ai parlé tout à l'heure de Miel Zarlop qui va jouer du coup à la Pléiade le jeudi 18 à 20h30, où là on est dans un objet complètement déjanté entre le concert rock, la performance plastique, haut en couleur et en dynamique. C'est vrai que c'est un spectacle qui m'a beaucoup séduit et que je suis très très content de faire venir à Tours. Et l'autre artiste flamande, ça va être Sabine Molénard, qui elle passe, là du coup on n'est pas dans le même style, mais c'est une artiste danseuse, contorsionniste, vraiment une jeune artiste assez incroyable, qui elle va jouer vendredi soir au Petit Faucheux. Autrement, je pourrais parler aussi de d'Ali Moigny, qui est aussi un artiste iranien, qui va jouer samedi. My Paradise is Knife, qui est vraiment une pièce extrêmement forte. Ou alors de Camille Mutel aussi, qui va jouer aussi à l'Olympia, qui est une artiste qui vient du striptease à la base, et après qui est passée par la danse buto, et qui du coup a des propositions vraiment très très atypiques. Ou encore d'une artiste que j'ai invitée qui s'appelle Seva, qui va jouer la petite Louise, qui va jouer dans différents lieux, qui est des propositions très très courtes, mais qui est une danse comme ça très très précise, très fine, et qui joue du coup une fois à la galerie Olivier Rousseau dans des petits espaces, musée des Beaux-Arts, à la librairie Le Livre, enfin qui ont vraiment du coup un rapport de grande proximité avec le public. Donc voilà, après je pourrais énumérer toute la programmation,
C'est vrai, voilà. Il y a d'autres spectacles aussi. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur ce spectacle-là, Go 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 Set the Bird, donc c'est de Camille Mutel, hein, c'est le samedi 20, c'est le dernier en fait. C'est un spectacle qui est réservé aux adultes pour le coup, donc qui est quoi, caractère érotique un peu, comment c'est ce spectacle pour qu'il soit réservé exclusivement aux adultes?
Oui, alors c'est difficile parce que c'était la surprise, donc alors c'est vrai que si je dévoile trop, après, c'est surprise, mais quand même, je peux quand même me dire un peu. Oui, tout à l'heure, j'ai donné une petite piste à nous, effectivement, c'est une artiste qui vient, qui a été modèle, qui a travaillé aussi comme stripteaseuse dans ses premiers temps de carrière, qui est une très très belle danseuse de buto. Là, elle fait un travail je sais pas si vous, ça va dépendre des gens, des références des gens, mais si les gens ont lu Bataille, l'histoire de l'œil de Bataille, mm-hmm. par exemple, on est très proche de ce genre de on va dire d'érotisme intellectuel. C'est réservé aux adultes parce qu'il y a de la nudité, parce qu'on est aussi c'est un spectacle qui m'a beaucoup touché et donc c'est une jauge très très réduite, c'est pour que 70 personnes à la fois, du coup il est programmé deux fois, donc si les gens veulent le voir, il faut vraiment qu'ils s'occupent, qu'ils fassent très attention à bien réserver leur place, et on touche, effectivement on va toucher des choses qui de l'ordre de l'érotisme, de la représentation de l'érotisme, sans jamais être vulgaire, et à la fois ça va quand même très très loin, donc c'est très perturbant, en fait, intellectuellement très perturbant, voilà.
Donc on ressort pas de ce genre de spectacle, en tout cas sans émotion et sans avis.
On ressort pas dans le même état qu'on est rentré.
Ouais,
voilà,
ouais.
C'est un peu ça que je cherche dans les propositions qui sont proposées. C'est que du coup on rentre dans un état d'un spectacle et que quand on en ressort, voilà. Moi pour le spectacle avec Camille Mitel, quand je l'ai vu, quand je suis sorti moi-même du spectacle, je savais pas si j'avais aimé ou pas aimé. En fait, j'étais un peu comme ça, un peu scotché. Et puis après, c'est plus le temps à passer. Plusieurs mois après, ce spectacle m'a resté. Je sentis qu'il avait touché un endroit chez moi, en tout cas particulier. Et du coup, ce qui m'a amené d'avoir envie de le partager. Et je connais beaucoup de monde. Quand je l'ai vu, il y avait un espèce de silence. On s'était cru dans une église. Un silence très, très religieux. Il y a la voix aussi d'Isabelle Dutoit. C'est comme si on séparait, en fait, un spectacle qui séparait l'action du corps de l'action vocale. Mmh. Et c'est un peu comme si on assistait à une cérémonie japonaise, un peu. Voilà, c'est l'ordre du cérémonial et du rituel. On est très proche de ça, donc et on est très très proche du plateau. C'est un petit plateau, on est assis autour.
Du coup, ça plonge un peu dans l'intimité, ou en tout cas, ça plonge le spectateur aussi dans l'intimité de la nudité aussi, peut-être.
Tout à fait. Le fait d'être très proche de la nudité, c'est la raison pour laquelle d'entrée, on réserve aux adultes, mais il n'y a jamais on doit toucher un point de vulgarité. C'est dans ça où elle est très forte, en fait, justement, je trouve. Voilà, parce que ça aurait pu basculer, le même propos pourrait basculer vraiment dans quelque chose de très de vulgaire, parce que là, ça ne l'est jamais. C'est extrêmement beau. Voilà. Je le conseille, vivement.
Et alors du coup, le festival, hein, il commence évidemment le jeudi 18 et il commence par Cécilia Ribaud qui a débuté avec vous en 1998. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et puis aussi nous dire pourquoi vous avez fait le choix de placer ce spectacle-là en introduction, je dirais. Et aussi, il faut le préciser, il est gratuit, c'est quelque chose de gratuit. Est-ce que c'est un choix délibéré
Oui, alors c'est un choix délibéré. Alors d'abord, Cécilia, c'est une danseuse que je connais depuis très, très longtemps, que qui a suivi tout mon travail. Là, ça va être un travail en cours, en fait. C'est pour ça que c'est gratuit et ça commence par ça. C'est ce qu'on appelle un work in progress. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça va être une étape du travail et elle produira la pièce finale, on va dire, lors de l'édition du festival prochain, 2019. Cécilia, elle est elle-même d'une double formation, elle est aussi chanteuse et danseuse. C'est son premier travail d'écriture. Donc voilà, et en fait, dans le festival, ça depuis presque le début, on accompagne toujours des jeunes artistes de la région sur leur production. Et du coup, on a créé un petit réseau avec Métrop à Bourges et puis et la pratique à Vatan. Ou qui pour des temps de résidence, donc j'ai accueilli Cécilia en résidence, elle a été accueillie à Bourges, elle a fait une présentation déjà de ce travail à Bourges, et là on va avoir une étape de ce travail dans un contexte du coup de presque de studio de danse, en fait, voilà, c'est-à-dire pour rentrer vraiment dans la matière, et elle va aussi nous parler à peu près d'où elle en est dans ce travail-là qui verra vraiment le jour l'année prochaine.
Ok, et alors du coup...
C'est une très belle artiste. Cécilia, c'est une très très belle artiste. Mais après, le public tourangeux la connaît bien.
Et alors, par rapport à cette gratuité, c'est pas la seule, hein, c'est pas le seul spectacle qui sera gratuit. du coup, je me prends tout seul de court. Il y a un autre spectacle qui est gratuit, mais je m'en rappelle plus. Je vais retrouver ça.
Mais il y a le spectacle de Seva qui est gratuit.
Oui, voilà, effectivement, ouais. qui lui est pour le coup beaucoup plus court hein, aussi. Seva, c'est durée 10 minutes.
C'est ça. Donc,
voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi déjà avoir mis en place des spectacles gratuits au milieu de spectacles dont l'ordre de prix varie hein, entre 5 euros, 12 euros et puis il y a même un pass à 25 euros, c'est ça pour 4 spectacles ?
Ouais, tout à fait. Bah, alors, d'abord, je pense que sur la proposition notamment de Seva, je me suis trouvé que c'était difficile de faire payer des gens pour 10 minutes, déjà. Mm-hmm. Voilà, c'est une histoire de rapport à la quantité, mais quand même un petit peu. Et après, c'est vrai que chaque année, on a quand même quelques propositions qui sont gratuites comme ça, qui sont aussi souvent dans des lieux atypiques. On va dire qu'on met les gens aussi qui ne sont pas forcément dans le confort, c'est-à-dire d'aller voir un spectacle dans une galerie de peinture où c'est des jeux de 20 personnes, donc c'est des toutes petites jauges. Voilà, ça me semblait important aussi qu'il y ait aussi des accès, des choses comme ça qui soient accessibles dans la gratuité, sans faire tout le festival gratuit, parce que c'est pas quelque chose dans lequel je suis pour non plus. Voilà.
Oui, et ça pose aussi le problème financier.
Le problème financier, là, voilà.
Et des partenaires, par contre, on peut peut-être évoquer le sujet. Vous êtes en partenariat avec le Petit Faucheux. Faut le souligner. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce partenariat, comment il s'articule et s'il existe depuis le début, en fait, le partenariat avec le Petit Faucheux, ouais.
Il est même essentiel. C'est plus qu'un partenariat avec le Petit Faucheux, parce que c'est une grande complicité qu'on a depuis longtemps, une confiance qu'ils me font déjà. Et là, ils sont vraiment coproducteurs. On est coproducteurs à 50%. Je pourrais pas faire le festival sans le Petit Faucheux. Mm-hmm. En fait, voilà, ça c'est clair. Ils sont indispensables et dans tout ce qu'ils apportent en personnel, technique et autres, communication, etc. Et puis l'apport financier qu'ils font aussi sur le festival. En fait, c'est un festival vraiment qu'on partage ensemble. C'est une longue histoire d'amour. Ça va faire presque 20 ans que je travaille avec le Petit Faucheux, déjà comme interprète, après comme chorégraphe. Et voilà, c'est une longue complicité.
Bon, alors, 2018, évidemment, on vient de rentrer dans cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le festival, hein, évidemment, ou même vous, à titre personnel, évidemment, mais pour ce festival-là, 2018, beaucoup de succès, j'imagine, ou il y a quelque chose d'autre que vous-même souhaitez voir à ce festival, peut-être un public différent, peut-être des choses un peu atypiques. Qu'est-ce qui vous ferait envie pour cette édition de Écoute Voir?
Ben que ce festival déjà remporte une adhésion d'un public assez large. C'est toujours un peu ce qu'on vise dans le festival, c'est-à-dire que de rassembler un public parfois fragmenté dans les styles. Ça je peux souhaiter. Et puis que les gens soient emballés, séduits, peut-être pas partout d'ailleurs, mais parce que je trouve ça une notion importante, on n'est pas obligé d'aimer en fait. Et puis c'est toujours la notion d'aimer un spectacle, elle est toujours particulière, donc j'ai pas envie de dire que tout le monde aime tout. Parce que forcément il y a des spectacles que des gens vont peut-être pas aimer, mais après des fois il y a des spectacles qu'on n'aime pas mais qui 10 ans après vous vous en souvenez encore, puis d'autres que vous adorez puis vous vous en souvenez plus en fait. Donc c'est toujours relatif cette question d'aimer, de pas aimer, en tout cas que ça touche un endroit chez eux, voilà, que ça puisse toucher un endroit et un questionnement. C'est important, je pense, à l'heure actuelle et en 2018, je pense que si on pense à l'actualité, à tout ce qui se passe dans le monde, je pense que le questionnement est une chose importante.
Oui, et parler au sentiment finalement, à l'émotion.
Oui, toucher à l'émotion, et la place de l'art et la place des artistes. Je pense que là, voir un artiste comme Ali Mouani, cet artiste iranien, qui va vraiment toucher sur un problème politique actuel, c'est important. Voilà. Je pense que c'est important d'écouter ce que les artistes ont à dire. C'est toujours important, mais peut-être plus dans les époques commencent à devenir un peu compliquées, je pense que c'est encore plus important. Voilà.
Eh ben, merci. Pardon, je vous laisse rajouter.
C'est la radio aussi, parce que vous savez, on a aussi une web radio du festival.
Oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Ouais. La web radio, c'est écrit en petit, en tout cas sur le fascicule dont j'ai à disposition. J'espère que nos auditeurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, vous faites bien de le mentionner.
Voilà, parce que j'y tiens beaucoup à ces web radios. C'est un travail aussi que j'ai compris avec un journaliste s'appelle Emmanuel Morera, qui est journaliste à Radio Grenouille à Marseille, mm-hmm. qui est très spécialisé dans le spectacle vivant et dans la philosophie. Et on fait 2 heures de direct chaque jour pendant les 3 jours du festival. Et après, les gens peuvent écouter des émissions podcast. C'est important parce qu'avec Emmanuel, on travaille d'abord parce qu'il interviewe toujours les artistes le lendemain du spectacle. Ça contracte vraiment sur la notion de critique. De spectacle et non pas de communication. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de communiquer. Et je trouve qu'actuellement, on communique beaucoup sur les spectacles. Oui. On fait beaucoup de pubs pour les spectacles, mais finalement, on critique peu. Et quand je parle du mot critique, c'est pas vouloir dire du mal des choses, mais du coup, de pouvoir les analyser. Et puis aussi, dans cette web radio, ce qui me plaît beaucoup, et je crois qu'Emmanuel gère ça vraiment très 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 bien, c'est le fait de recevoir les articles le lendemain du spectacle. Déjà, il les prend dans un moment où on peut parler sur ce qui s'est passé la veille et justement sur les réactions du public, il est plus détendu et c'est plus facile. C'est très très bien. Voilà, je conseille vivement.